Et voilà, donc deuxième partie de l'émission Onde Noire. Jacques, c'est à toi de nous présenter
donc
un coup de cœur.
Un coup de cœur de l'été. Donc c'est un roman qui est paru tout au début de l'été. C'est un roman de Gilles Bornet qui s'appelle Les Nuits Rouges de Nerwood. Et publié aux éditions Pascal Galaudet et il vaut 20 euros. Il y a 10 ans, Gilles Bornet nous avait créé dans Le Diable de Glasgow le personnage de Joe Hackney, qui est un détective à Scotland Yard, mais c'est aussi un ancien truand qui a évidemment gardé ses amitiés dans le milieu. Et là donc, c'est la quatrième enquête, et il va aller cette fois-ci dans le Somerset, donc je vous indique, c'est au sud-ouest de Londres, vers la côte.
Juste à côté de Lugan.
C'est ça. Et là, donc, en fait, il va prêter main forte à la police locale, qui est un petit peu dépassée, pour trouver l'assassin du député conservateur, un monsieur Ambrose, et aussi de celui qui a blessé dans la même nuit son rival à la députation, monsieur St. Jones. La belle et blafarde madame Ambrose semble être mêlée à l'histoire, mais elle refuse catégoriquement de parler à la police. Elle préfère croupir dans sa cellule plutôt que d'avouer ce qu'elle sait. Donc, Hackney et les membres de la maréchaussée locale vont devoir courir les bois à la poursuite d'une mystérieuse silhouette accompagnée d'un chien sur qui se reportent tous les soupçons, car le légiste, lors de l'autopsie, a trouvé des traces de morsures sur le corps d'Ambrose. Alors, je vous parle un petit peu d'Hackney. Lui, il est Hackney, Joe Hackney.
Oui, en fait, je te gère parce que Hackney, ouais, ça fait un peu juvénile quand même.
Alors, on va le faire à l'anglaise. Joe Hackney, il est plutôt laid, plutôt inculte, mais il a un solide bon sens et du flair, ce qui fait en général dans les policiers de roman des grands flics. Il a souvent l'aide de deux acolytes, Millie, qui est une entraîneuse, une prostituée en fait, dont il est amoureux mais qu'il doit, hélas, vu son boulot, enfin le boulot de Millie, la partager un petit peu. Et il l'utilise souvent pour faire parler certains suspects, lesquels sont avec Millie dans un état, disons, de faiblesse. Et le deuxième, c'est Ashby, c'est un voleur, c'était un de ses copains, un petit truand, on dirait aujourd'hui. Et c'est un compagnon de son ancienne vie, ils ont l'un pour l'autre beaucoup d'admiration, et il fait souvent un infiltré impeccable. Alors c'est un roman populaire, un roman victorien, mais un roman populaire, qui ne se passe pas dans la upper class, comme on pourrait dire, avec le thé, les petites cuillères en argent. Là, on est plutôt dans la boue, dans la fange, même si les victimes sont des élus, des bourgeois. L'auteur, Gilles Bornet, s'intéresse plutôt aux petites gens. Il y a des scènes de bar, de bouge, des scènes de commissariat qui sont des plus réalistes. On a en plus une très bonne intrigue, mais en fait, ce qui fait vraiment la force du roman, c'est qu'on sent que Gilles Bornet a hanté les bibliothèques, les divers instituts en Angleterre, et même certains pubs probablement, pendant de nombreuses heures, et qu'il veut en fait nous faire partager ses découvertes en nous donnant de nombreux détails, évidemment. Ben le lecteur, lui, il en profite, il est immergé dans ce milieu, on est en plein Somerset, et évidemment, ben on en redemande. C'est vraiment un excellent roman. Alors, je voulais juste préciser avant de finir, si jamais vous voulez découvrir le personnage de Joe Hackney, ses premières aventures, elles sont rééditées dans la collection Grand Détective chez 10-18, et ils sont tous disponibles, donc le premier étant Le Diable de Glasgow.
Voilà, donc on va rappeler l'éditeur, donc c'est l'éditeur, chez Pascal Galaudet.
Pascal Galaudet, le Gilles Bornet, Les Nuits Rouges de Nerwood.
Voilà, ne pas confondre avec Sherwood, c'est un autre, c'est voilà. En Angleterre, mais c'est un autre. Un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique, donc le dernier tout à fait récent album des Waterboys, et évidemment un album excellent, qui s'appelle Welcome, c'est un album qui est dédié à Mr. Yeats, et dont je ne me souviens plus le titre exact. Welcome to Mr. Yeats, voilà. Et le titre que nous allons écouter, c'est Let the Earth Bear Witness, ce qui veut dire en gros, laissons la terre nous apporter le bonheur, en quelque sorte. Allez, chante Mick Scott.
They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. Let the sea bear witness. Let the wind bear witness. Let the earth bear shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. Let the sea shall hear them forever. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever. The people shall hear them forever. They shall be remembered. They'll be speaking forever. The people shall hear them forever. They shall be remembered forever. They shall be alive forever. They shall be speaking forever.
Et revoilà le moment de retrouver notre spécialiste de bande dessinée, Frédéric Prieux, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Moi aussi, de
Alors, il fait aussi
Bretagne.
Chaud en Bretagne qu'ici, apparemment.
Il fait meilleur.
Ah, il fait meilleur.
Oui. Non,
il fait meilleur, ça veut dire qu'il fait moins chaud pour vous.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
Voilà, donc il est temps donc de rentrer, d'aller vers sa bibliothèque et d'aller chercher quelques BD assez pas trop durs et pas trop noirs pour ce début de saison.
Non, pour reprendre calmement donc voilà, chers amis auditrices et auditeurs, j'ai en fait choisi de vous prendre pour vous nous sortir, je vais y arriver, pour nous sortir de nos sombres histoires de valises au contenu à partager entre six candidats, j'ai bien compris l'actualité, j'ai choisi deux séries qui vont vous remonter un peu le moral. Donc à ma droite, le commando Torquemada, et à ma gauche, l'intrépide Scott Leblanc. Alors, tout seigneur, tout honneur, je commence par le commando Torquemada, qui n'est autre, ma chère Corinne, qu'une branche secrète et armée du Vatican, dirigée d'une main de fer par le cardinal Albuquerque, chef de la très sainte Inquisition, qui obéit lui-même au pape, donc, bien entendu. Donc, c'est un peu au service secret de sa sainteté, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Mais on peut pas dire que le commando en question soit vraiment un groupe d'élite. Il est composé de frère Malachi, un spécialiste des potions qui rendent très malade, aveugle,
voire
mort.
Ou Malassi?
Malachi, jeune mot, je pense,
oui.
À part de nos auteurs. Fergal, il y a aussi une Fergal McGowan, sorte de dandy amateur de haute, un jeune mot, justement, qui a gâché de facile. Et enfin, troisième membre du commando, sœur Sarah Terwan, une nonne hyper sexy, visionnaire et fervente à pratiquante de l'autoflagellation. Donc, vous voyez le genre de cas. Donc, on a fait appel à eux pour trois missions, des cas désespérés. Alors, la première mission est racontée dans le tome qui s'appelle « Pour la plus grande gloire de Dieu ». Et elle a consisté pour le trio à ramener à Rome la lance du centurion Longinus. Donc oui, Jacques, je t'entends, c'est bien la lance qui a percé le flanc du Christ sur sa croix.
Bien
et
évidemment.
Des siècles plus tard, n'est-ce pas, elle sert de rayon à la roue du vélo d'un dictateur africain. Donc, première mission, ramener la lance. Deuxième mission, dans la deuxième, le commando doit s'assurer que Sœur Dominique, numéro 1 de la chanson liturgique et en tête des ventes, sera bien en état de participer à un festival rock imaginé par le Saint-Père pour relancer la ferveur religieuse auprès des jeunes. Alors c'est pas gagné parce que depuis quelque temps, la star en question se shoot avec n'importe quoi, ce qui nuit un peu à sa santé. Et ça, c'est dans le tome Dominique et Nick.
Oui, mais oui, et... je peux la chanter si vous voulez, mais je crois que je vais pas le faire. Je ne vais pas le faire.
Eh bien, hélas, pas non plus. Donc, voilà. Donc, en sa dernière mission en date, le pape a envoyé le commando au Caire pour récupérer alors un ouvrage assez compromettant pour l'Église, puisqu'il y est raconté que si Jésus a été embrassé sur la bouche par Judas, le fameux baiser du lac, tout le monde connaît, c'est parce que ces deux-là étaient amants et en passe d'annoncer publiquement leur union. Vous imaginez le coup de tonnerre dans la chrétienté si cela venait à se savoir. Donc, titre de cette troisième mission, pas sur la bouche. Donc, bon, je rajoute pas plus pour les descriptifs, parce que vous vous doutez bien qu'on est là dans les normes, comme on dit. Alors, les dialogues de Philippe Nioul, l'auteur, c'est fourmi de bons mots, mais qui fleurent parfois le mauvais goût, et les missions sont parsemées de rebondissements complètement improbables. Et quant au dessin de nerveux de Xavier Damin, il participe bien au délire de la série. En fait, il a des personnages qui sont particulièrement typés. Le petit gros, le bellâtre à Reban et la pinote pour le trio, et le plus réussi de la série, en fait, c'est le pape qui a donné les traits de Jean-Paul II et non de Benoît XVI. Donc, l'autre particularité de cet album...
Il était plus rigolo, ceci dit, déjà. Hein.
Exactement. On a fait une boule de nerfs assez nerveuse, oui, justement. Donc, la particularité de cet album, dont je vous parle là, c'est que c'est une intégrale qui s'appelle Commando Torquemada, Évangile 1-2-3, qui s'ouvre sur un court chapitre de 6 pages jusque-là inédit. Et alors, ça vaut le coup quand on n'a pas les deux premiers albums, mais c'est peut-être un peu plus embêtant quand on les a, parce que le dernier tome ne se trouve que dans cette intégrale. Alors, une arnaque, vous allez me dire, mais non, pas du tout, car c'est une magnifique édition, et en plus, si vous avez déjà les deux premiers tomes, vous n'avez qu'à vous poster à la sortie de la messe, et vous les revendrez aux fidèles, ça partira comme des
petits pains. C'est sûr,
n'est-ce pas ?
C'est sûr qu'au lieu de mettre le bol dans le tronc, ils donneront pour ces deux BD, ça me semble évident.
N'est-ce pas ? Donc ça, c'était le Commando Torquemada, édition fluide glaciale, 150 pages couleurs, hostie non fournie. Alors, l'autre série qui vaut le détour en ce moment, qui s'appelle, pour se détendre les égomatiques, ça s'appelle Les Aventures de Scott Leblanc, du nom du héros, plutôt du semblant de héros, inventé par Philippe Gueluc, oui, le même, et dessiné par Zewig. Hein, n'est-ce pas ? Alors, mais Gueluc au scénar. Alors là, rien qu'aux deux couvertures des albums parus à ce jour, on est fixé. Alors, je vous les décris, juste les couches. Donc, sur la première, on voit un blondinet à la brosse étudié, dont l'eau de mer jusqu'aux cuisses, le blondinet, qui tient dans sa main gauche une cage enfermant un canari, tandis que dans sa main droite, il se touche la joue, l'air complètement catastrophique.
Ouf,
devant
lui. Touche la joue.
Pareillement dans l'eau, un homme plus âgé, chauve, à la barbe rousse et carrée, serre contre lui un dossier frappé de la lettre Z. Il est légèrement tourné vers son compagnon et semble, lui, farouchement plus décidé à ne pas cesser à battre. Car derrière les deux hommes, un champignon atomique apparaît en arrière-plan. Titre de l'album, Alerte sur Fangatofa. Seconde couverture, on prend les mêmes et on recommence. Le blondinet affiche la même mine horrifiée en portant cette fois les deux mains à sa tête, tandis que le chauve barbu allume, lui, tranquillement une cigarette. À l'arrière-plan, le Capitole et deux soucoupes volantes qui échappent au faisceau de puissants spots. Titre d'album, Menace sur Apollo. Donc, je vous précise maintenant, parce qu'on a la radio, vous avez pas l'image, tout ça c'est dessiné dans le plus pur style RG1 ou Jacobsien, si vous préférez. Bref, la ligne claire vintage, comme on n'ose plus vraiment dessiner de nos jours. Donc, c'est pas difficile, on se croirait revenu graphiquement 50 ans en arrière. Alors, je sais pas si vous avez vu Corinne et Jacques, c'est une magnifique couverture, mais c'est quand même.
Mais non, parce qu'en plus, 50 ans en arrière, c'est beaucoup trop vieux pour nous, voyons.
Je suis d'accord. Cela dit, les aventures se passent en 66, très belle année, puisque voilà, c'est une très belle année. Alors, bien entendu.
Mais on pourra observer ces très belles couvertures bientôt sur le site de la Noire Haute, puisque on les mettra avec la
voilà, chronique, donc,
et ainsi les auditeurs pourront être happés déjà rien que par les couvertures.
Oui. Alors, c'est juste c'est complètement délibéré parce qu'on est en plein pastiche, en fait. C'est tout bêtement, l'idée, c'est de suivre les aventures parodiques d'un reporter complètement abruti, le Scott Leblanc, le blondinet en question, et qui est un reporter spécialisé dans les articles sur les animaux de compagnie des stars du showbiz pour le magazine Bien en Vue.
C'est pas la rubrique des chiens écrasés, mais presque, quoi.
Et voilà, des chiens qui sont beaux avant d'être écrasés, tu vois. Vous voyez, oui. Cher ami. Il est persuadé d'être un journaliste dont les papiers sont attendus par le monde entier avec impatience. Et en fait, il se retrouve malgré lui mêlé à des histoires de complots scientifiques. Le premier tome, c'est en Polynésie autour de l'arme atomique française. Et le deuxième, en l'occurrence, aux États-Unis en pleine mission Apollo. Et heureusement que le professeur Moleskine, c'est le chauve à la barbe dont je vous causais, il est là pour le tirer d'affaire dans leur rocambolesque aventure. Alors, ça marche parfaitement, ça fonctionne même du tonnerre, si je puis rester dans le ton de la série, parce qu'entre le dessin de Devig, qui est comme vous pouvez le deviner, comme sur les couves à l'ancienne, et les dialogues de Devig, de Gluck, il y a un décalage surprenant. On s'apprête à lire une gentillette histoire à la Tintin quand on voit la couve, et hop, on se retrouve en plein délire, et là, c'est vraiment la patte de l'auteur du chat qui est bien là. Donc, une chose à dire, précipitez-vous sur ces aventures des plus nazes des années 60, et il y en a que deux pour l'instant, mais à la lecture de la quatrième de couverture, bon, il y en a plein annoncés, elles seront peut-être pas là, mais l'inconnu de Berlin-Est, Donner à Léopoldville, seul contre le reste, ça donne envie, donc bientôt Scott Leblanc et sa bêtise légendaire vont faire le tour de la planète.
C'est
donc,
sûr voilà. qu'on a donc, envie ça, d'en souhaiter, d'avoir le succès et à la fois de Tintin et à la fois de Blake et Mortimer, parce que ça semble bien être...
Et du chat en même temps.
Et du chat en plus.
Et du chat, voilà, donc on a un joyeux mix là avec cette série complètement surprenante, et moi je dois dire, quand je l'ai vue, j'ai je les avais depuis un petit moment, je les avais pas vraiment lus, parce que je dirais, ça va être à l'ancienne, mais en fait c'est super drôle, et puis c'est vrai, un vrai pastiche, mais super, très très réussi. Donc alerte sur Fangatofa et Menace sur Apollo, deux aventures de Scott Leblanc, édition évidemment Casterman, ça pouvait pas être ailleurs.
Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup parce que nous, on a parlé plutôt de romans noirs, très noirs, plutôt pas trop gays. Et donc là, ça va permettre à nos auditeurs de voir encore un petit peu le soleil pendant un long moment. Merci beaucoup, Frédéric, et à bientôt.
À bientôt, Corinne et Jacques. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Et voilà, l'émission, première émission de la saison déjà terminée.
Mais on
vous
reviendra.
Voilà, on revient dans 15 jours. En attendant. Plein de belles feuilles à découvrir et de pages à noircir. Au revoir.